Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému, ou réfléchir et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur.
Aujourd'hui, nous recevons Pascal Lereste, Radio Grand Ciel. La précédente émission, il m'a interrogé sur un livre que j'ai écrit, Le caméléon et la mort en Afrique. Et moi, je suis un peu désemparée devant l'abondance d'écrits de Pascal. J'ai lu et j'ai étudié 12 livres qu'il consacre à son double fétiche, qui s'appelle Franck Lombard. Il a une carrière originale dans le sens où parti d'un milieu pas forcément facile, favorisé. Il transforme ces difficultés en un parcours extrêmement positif. Et comme dit Pierre Assouline, c'est pas tant les questions, les réponses de l'écrivain qui comptent que les questions qu'on lui pose. C'est-à-dire, je me demande un peu dans quel ordre procéder. Alors, j'ai pris une sorte de chronologie. J'ai lu ces 12 livres. Trois sont consacrés à l'enfance et s'appellent la trilogie du jeu de vivre. Trois autres sont consacrés à l'adolescence et au tâtonnement qui en résulte. Et trois autres élargissent l'horizon et s'appellent une vie à crédit. Si on fait le bilan de l'ensemble, on a une façon de voir l'ethnologie qui est originale, à savoir qu'à travers le parcours d'un homme, on peut se poser les mêmes questions que précédemment, une ethnologie à l'ancienne où on analysait des mythes et des rites. Là, on a un modèle de vie. Et comme dit l'auteur, je vais citer juste un petit passage. En abordant l'ethnologie, je voulais ouvrir les yeux sur d'autres réalités, d'autres façons de vivre, de penser le monde. Je voulais m'imprégner de la culture des autres peuples. J'avalais par conséquent les paroles des enseignants, mais je pensais aussi que moi-même, je pourrais devenir un sujet de la réalité du quotidien, rendre compréhensible des situations, décrire des moments typiques, rendre compte des relations entre des personnes ou donner du sens à des signes, à des symboles, invisibles pour la plupart des personnes. Donc, je me trouvais devant une chronologie et les questions que je vais te poser sont plus ou moins en rapport avec cette chronologie. Par conséquent, la première que je voulais te poser, c'est que tu sembles très marqué par une enfance un peu difficile. Et ce qui me frappe, c'est l'enfermement dont je t'ai parlé précédemment. Et en même temps, ce qui m'a intéressé, c'est que dans tes dédicaces, tu dédicaces d'abord à tes parents, ensuite à tes copains, à tes amis, et ensuite à tes enfants. Donc, on voit un parcours qui s'élargit. Et les parents, je voulais te demander comment ont-ils apprécié que tu leur dédicaces ton livre.
Alors, tout d'abord, dire un mot aux auditeurs. En général, je ne suis pas dans cette place-là. C'est moi qui présente l'émission Un livre, un auteur. Mais Nicole Echenlor, qui vient de Tahiti, m'a dit « Ah, mais moi, si je viens pour parler de mon livre Le caméléon et la mort en Afrique, je veux ensuite que toi, tu nous parles des livres que tu as écrits en mettant en scène ton double Franck Lombard. » Je joue le jeu parce que je voulais vraiment que Nicole soit avec nous dans cette émission. Donc je me prête maintenant à l'exercice et je me retrouve de l'autre côté. Ça a une inversion donc des places.
Voilà. Et c'est comme le caméléon.
Voilà, et c'est très bien parce que c'est aussi une forme de réciprocité. Je trouve ça vraiment très intéressant. Oui, alors mes parents n'ont pas lu la trilogie du jeu de vivre. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'ils aient pu apprécier ce type de littérature parce qu'en fait le but c'est aussi la réflexivité et tout le monde n'a pas la capacité de la réflexivité, c'est-à-dire que
tout à fait, ouais.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait moi ce que j'ai voulu aussi dans ces ouvrages que tu évoquais c'est pouvoir restituer l'esprit d'une époque et c'est tenter de positionner un miroir pour le lecteur afin qu'il se pose aussi certaines questions sur son parcours de vie, sur ce qui préside à l'état des différents changements dans sa vie, ce qui concourt donc au virage existentiel. Et donc tout le sujet de mes ouvrages, de ces récits, c'est ça. Et alors évidemment, en tant qu'ethnologue, j'ai pris un angle un peu particulier dans ces ouvrages-là, par rapport à tout ce que j'ai pu écrire, par rapport aux 40 bouquins que j'ai écrits. Dans ceux-ci, précisément, je me prends moi-même comme terrain d'étude. Donc, je suis le sujet de mon étude.
Comme disait Montaigne, je suis moi-même la matière de mon livre.
Exactement.
C'est-à-dire que tu fais référence. Oui, j'ai bien compris ça. D'ailleurs, je me suis dit que tu étais l'ethnologue de toi-même, en fait, comme j'avais entendu Annie Ernaux à une certaine émission dire qu'elle était l'observatrice d'elle-même, à savoir que si on s'analyse, si on voit son parcours, ça peut servir de modèle à ceux qui lisent. Parce que l'intérêt d'un livre, c'est qu'il y ait quelque chose, une portée universelle. Sinon, ça tourne sur soi-même, ça n'est pas tellement intéressant.
Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve ça vraiment essentiel. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit beaucoup de livres en ethnologie ou sur le travail social. Et en fait, je cherche à apporter, au-delà d'un constat ou d'un diagnostic, des solutions pour répondre à des problématiques sociales. Par exemple, l'errance des jeunes. Et à un certain moment de ma vie, j'étais déjà assez âgé, on va dire, j'avais déjà 47-48 ans. J'avais des enfants qui étaient adolescents et je me suis posé la question aussi de ce que je pouvais transmettre d'une autre manière pour un public plus large. Et donc ces livres, ces récits, c'était pour moi une façon de dire, même si votre parcours est compliqué, difficile, ce qui a été le cas pour moi, eh bien, il y a toujours de la lumière. Et la question, c'est comment on peut distinguer la lumière en soi et comment on peut, à partir de cette lumière qu'on distingue, construire un itinéraire de vie. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est ça. C'est quelles que soient les épreuves que vous vivez, que vous traversez, vous pouvez aussi trouver l'énergie, le potentiel pour pouvoir pour pouvoir vous construire et surgir. Voilà. Et on est, voilà. Donc en fait, c'est aussi des livres d'espoir, quoi.
Moi, j'ai trouvé ça très positif. Je te l'ai déjà dit. C'est-à-dire que on part d'un enfermement dans l'enfance, à un enfermement qu'on retrouve à l'âge de 16 ans, et après beaucoup de lumière, beaucoup de choses positives. Et j'ai repéré un leitmotiv permanent, c'est l'écriture. Et je voulais te demander comment tu avais choisi ce Franck Lombard. Pourquoi ce nom et pourquoi ton double? Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de vécu dedans, mais je voulais te demander, oui, le choix.
Alors, le choix de ce nom. Alors, bon, Franck, c'était un prénom très, très, très important pour moi dans le cadre de mon enfance et de mon adolescence. J'ai rencontré beaucoup de Franck, ils avaient toujours des personnalités assez, assez tranchées. Donc, je trouvais que c'était un prénom qui était intéressant parce que voilà, j'avais rencontré beaucoup de Franck autour de moi. Donc, première chose. Ensuite, quand on cherche un nom comme ça, il faut que ça soit un petit peu porteur. Donc, Lombard, bah, pourquoi Lombard? En fait, moi, je suis intéressé par les pays où il y a de la lumière. Je suis intéressé par l'Italie, notamment. Et donc, Lombard, ça a été un choix qui s'est imposé comme ça parce que le Sud est très important pour moi. Voilà, donc, mais au départ, je me suis dit, bon, voilà, il faut que ce soit un nom quand même qui paraissent comment dire crédibles même s'ils n'existent pas. Et puis un jour en fait dans une rencontre comme ça avec des lecteurs, il y a un lecteur qui me dit ah mais si mais Franck Lombard je le connais, c'est mon plombier. Et donc en fait j'ai aperçu qu'il y a plein de Lombards. Oui. Et même chez l'armatan il y a une professionnelle qui s'appelle Raphaël Lombard. Donc oui. Des Lombards il y en a, mais ça je l'ignorais au départ. Oui. J'ai pas fait une recherche spécifique. Alors ensuite dire que ce que j'ai tenté de faire, moi, c'est parler d'une époque et tenter de parler de transactions humaines, les interactions, comment les interactions entre les personnes se produisent, comment elles se créent, etc. Donc, c'est un récit. C'est moi qui parle et qui fait parler tous les acteurs, évidemment. Et je convoque certaines scènes de ma vie. Je les convoque et je les associe en scénographiant un peu les choses pour pouvoir transcrire ce qu'il en est d'une époque. Et ça me permet, par exemple, dans la trilogie du jeu de vivre, ça me permet de parler de ce que c'est que l'enfance dans la société française dans les années, fin des années 60. Ça me permet de parler de la domination masculine, de la violence dans le couple. Ça me permet de parler d'un certain nombre de choses, de réalités humaines, dont on voit bien qu'elles sont encore aujourd'hui d'actualité, puisqu'on parle beaucoup de la violence faite aux femmes. Et ça a une histoire, c'est pas d'hier. Voilà, donc je cherche à parler aussi de la manière dont les enfants sont traités, et souvent maltraités dans les familles. Hein, on considère qu'un enfant, il ne comprend pas grand-chose avant d'avoir 6-7 ans, et donc on se permet de dire n'importe quoi devant un enfant. Et ce que je montre, ben, c'est que c'est assez stupide, parce que l'enfant, il a une mémoire, et pour ce qui me concerne, ben, je fais démarrer mon personnage à l'âge de à peu près 12-13 mois. Voilà. Oui. Donc il est jeune puisqu'en fait il marche pas encore, tout à fait.
Oui, j'ai remarqué quand on le met dans son lit avec ces fameux barreaux dont on a parlé. Oui. Et cet enfermement, on a l'impression qu'il te suit pendant longtemps et que l'écriture va t'en libérer. Et ça paraît... Franck Lombard, plutôt, va être libéré par l'écriture. Il y a une autre chose que j'ai pensée sur l'époque, c'est la prégnance religieuse, parce qu'on sent la mère de Lombard qui est toujours fourrée à l'église, le fils qui doit faire le catéchisme, et ça, c'est vrai que ça représente une époque aussi où aucune éducation ne se faisait quasiment sans la religion, qui avait peut-être du bien parce qu'elle structurait les individus, mais que les jeunes, à un moment donné, rejettent pour le côté... culpabilisant aussi, et puis le côté obligatoire.
Tout à fait, oui.
Et puis ça dénote un milieu aussi. Hein.
Oui, oui, c'est ça, je cherche à restituer tout un environnement
de
vie. On
le sent bien, hein. Oui.
Donc je parle les dimanches, par exemple, dans la fin des années 60, début des années 70, ouais. Les dimanches qui étaient quand même... Enfin, je veux dire, chacun choisissait, quoi. Il y avait ceux qui allaient à la messe et ceux qui étaient plutôt de gauche, communistes, syndicalistes, et qui étaient sur le marché en train de distribuer l'humanité dimanche. Et donc, en fait... Mais en même temps, les populations se rencontraient, parce que de l'église,
oui,
au marché, il n'y avait qu'une marche. Et en fait... Et en fait, donc les gens, même s'ils avaient des points de vue opposés ou en tout cas différents, différenciés, eh bien ils se croisaient quand même dans l'espace public. Et donc en fait, les positions étaient finalement plus simples qu'aujourd'hui. Après, on pouvait se positionner pour ou contre. Effectivement, il y avait le poids, hein, que, oui. Comme tu viens de le dire, le poids des rites, hein, qui s'imposaient aux enfants, catéchisme, la messe obligatoire, etc. Mais en même temps, ça permettait à chacun de se situer et de pouvoir construire ses catégories de pensée. Donc ça, c'était quand même quelque part, c'était important quand même.
C'est clair, ça donnait des repères. Je vois l'évolution aujourd'hui, elle est très nette. Hein. C'est complètement déchristianisé. Jeudi prochain, là, c'est l'Ascension. J'avais même pas réalisé. On n'a plus du tout de repères. Alors, je comprends la jeunesse qui doit, voilà. Avant, c'était le calendrier religieux. Maintenant, c'est hors de question. Et je voulais revenir aussi à l'éducation et à ce qui ressort de la jeunesse de Franck Lombard. C'est l'idée qu'il ne peut pas se libérer facilement parce qu'il est contraint par l'espace familial et par le manque de liberté. Du fait que c'est le milieu qui a une contrainte sociale et que l'enfant, le jeune, ressent très fort parce que il peut pas avoir une vie libre, quoi. Tout au moins, il n'a pas les moyens de l'avoir. Mais ça touche beaucoup de nos contemporains aussi. Ça n'est pas typique de l'époque, mais enfin, c'est vrai.
Alors, je vais y répondre, mais je reprends en fait à un moment donné la bride de l'émission pour une pause musicale afin d'alléger un peu nos auditeurs du contenu des propos. À tout de suite.
Parler dans
après cette pause musicale, je reprends sur la question de Nicole et Chandler, concernant l'enfance et l'adolescence de Franck Lombard. Hein, vous êtes bien sûr sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur. Oui, alors, pour répondre à ta question, Nicole...
Je te parlais de la frustration que ça peut engendrer, quoi.
Oui, alors bon, par rapport à cette enfance de Franck Lombard et son adolescence, tu parlais d'enfermement, c'est très important. Effectivement, on commence comme ça la trilogie du jeu de vivre avec, avec le parc. Parc, les barreaux, etc. Et bien sûr, c'était, j'ai pris ces images sciemment. Pour moi, le but, c'était de montrer que, de toute façon, en dehors de tout cadre, il n'y a pas de construction. Il faut un cadre. Alors, il y a une symbolique. Et là, le cadre, bien sûr, c'est pour protéger l'enfant. Bon, mais on se construit. On se construit aussi avec, avec ses cadres, avec ses bornes, etc. Ensuite, par rapport à ce que tu évoquais, on va voir Franck Lombard durant son adolescence qui va être dans un autre type d'enfermement. Il va être dans une forme de repli dans sa chambre. Et en fait, l'ouverture qu'il a, qu'il va trouver, c'est grâce à la littérature, grâce au livre. Et en fait, il s'évade grâce au livre. Donc en fait, je cherche à montrer la tension qu'il y a entre l'enfermement relatif et puis en même temps l'ouverture. Alors, pour Franck Lombard, c'est les livres, mais ça peut être la musique, ça aurait pu être la peinture, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le sport. Mais enfin, lui, voilà, il est à la fois dans un lieu clos, mais en même temps, il s'évade et il parcourt le monde grâce aux livres. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, oui, très tôt, pour Franck Lombard, mais pour Pascal Le Reste aussi, l'écriture, ça a été un moyen d'évasion. Mais c'est un moyen d'évasion aussi avec ces formes de contraintes, parce que on n'écrit pas en dehors d'un cadre. À l'époque où j'écrivais, c'était un papier, hein, donc c'est un plan.
C'est limité. Oui.
C'est limité, hein, avec un crayon. En fait, il y a aussi un jeu autour des contraintes. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Bon, mais bon, on a le clavier, on a l'écran. Donc, ça veut dire que la liberté, on ne peut pas la trouver si on n'a pas non plus intégré les formes d'un cadre. Donc le cadre, c'est très important. Et c'est vrai que, et d'ailleurs je suis très heureux que tu aies relevé ça, pour moi c'est montrer que ce qui importe, et c'est ce que j'ai voulu dire aussi aux parents à qui je destine notamment le livre, et puis aux adultes en général, c'est qu'on ne peut pas évoluer si on n'a pas un point fixe, stable. Et ce que je montre, c'est que bah, finalement Franck Lombard, malgré toutes les épreuves qu'il rencontre et qu'il traverse, ben en fait, il part de points fixes. Et ce point fixe, en fait, il va grandir. Et le cadre va grandir en même temps que lui grandit pour finalement trouver sa place dans le monde et finalement faire du monde son terrain de jeu. Et voilà. Et donc, pour ce qui concerne Pascal Le Reste, en tout cas, je suis devenu ethnologue et maintenant, mon terrain de jeu, effectivement, c'est la planète, quoi.
J'ai bien compris ce sujet parce qu'à un moment donné, tu le dis... À propos du cadre qui s'élargit, le monde devenait ton terrain d'observation. Et aussi, j'ai remarqué ça, ce qui était intéressant, j'ai bien compris que c'était par l'écriture, parce que tu dis, tu me parles de l'importance de l'écriture, tu te sentais prisonnier d'un destin, ça revient souvent, et ton leitmotiv, c'était que tu chercherais à t'en sortir. Ce cadre social, tu avais les moyens à 16 ans de le bousculer. Et grâce à tes professeurs, en particulier, tu parles du professeur de littérature, les professeurs d'histoire-géo, je crois, découvres des auteurs qui t'ont beaucoup apporté. Tu parles aussi de la musique, de Ferré. Ça situe aussi une époque. Ça a été très important pour toi, je pense. Ces écrivains, quels sont-ils, en gros? Ceux qui t'ont inspiré?
Il y en a plein. Ceux qui me viennent à l'esprit tout de suite, là, c'est Céline, alors qu'on décrit beaucoup aujourd'hui. Mais enfin, oui. Bon, je veux dire, on oublie que Céline, c'est quand même deux des ouvrages les plus importants du XXe siècle, hein, avec Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Donc, c'est quand même des livres à la fois fondamentaux et fondateurs, hein, sur la question de la forme littéraire. Ensuite, moi, je suis très intéressé aussi... Enfin, j'étais très intéressé quand j'étais plus jeune par toute la littérature du XIXe siècle. Émile Zola, en premier lieu, c'est lui qui m'a donné envie d'écrire, hein, c'est lui qui m'a même donné envie de devenir sociologue, ethnologue. Je trouve que c'est un sociologue de premier plan. Et puis tous les autres, hein, bien sûr, Victor Hugo, etc., enfin, tous les auteurs français du 19e. Pour ce qui concerne le 20e siècle, je suis beaucoup plus intéressé par les auteurs américains. Hein, voilà, bon, tout,
tu
tout.
Peux nous citer des auteurs qui peuvent nous aider?
Oui, le dernier en titre, Philip Roth, hein, qui vient de décéder il y a peu de temps. Pour moi, Philip Roth, c'est un des plus grands écrivains du 20e siècle et puis début 21e. Voilà, bon, après, dès le début du 20e, des écrivains comme Ernest Hemingway, hein, j'engage tout le monde à relire la nouvelle traduction Paris est une fête, bon, c'est fantastique. Voilà, ensuite, bon, j'ai lu des auteurs d'un peu partout, j'adore la littérature japonaise, Mishima par exemple. Voilà, donc, mais bon, ce qui m'intéresse, c'est voilà, c'est aussi une littérature qui est ancrée dans la socialité, c'est-à-dire, et c'est ce que j'ai voulu faire aussi. C'est pas une littérature d'un auteur qui se pose simplement que des questions métaphysiques ou existentielles. Voilà, ce sont aussi des questions qui viennent. Renseigner sur l'état du monde ou de la société dans une époque donnée. Je viens de parler de Philip Roth, c'est très intéressant, un livre comme La Tâche, par exemple, c'est fabuleux. En fait, il parle du racisme aux États-Unis, il montre en même temps dans ce livre ce qu'il en est de la question de la constitution des identités, la place des hommes et des femmes. Bon, c'est et puis en fait il parle également donc de l'Amérique de Clinton et puis de la question aussi du rapport au corps, au sexe, etc. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Donc c'est le type de littérature que j'aime, c'est-à-dire c'est la mise en scène de personnages. Bien sûr, on raconte des histoires, mais pour témoigner d'une époque et puis aussi montrer quels sont les aspects un peu rugueux, un peu détestables de nos sociétés et tenter aussi de dessiner des perspectives pour modifier les choses, parce que beaucoup d'auteurs disent qu'on n'écrit pas pour changer le monde. Bon, bah moi si je change pas le monde en écrivant, ça m'intéresse pas d'écrire. C'est-à-dire que si on ne part pas de l'idée et de l'intention qui consiste à changer l'état des choses, alors ça sert à quoi? Moi, je n'ai pas envie simplement de ne faire que divertir. Tout à l'heure, on en parlait en dehors de l'émission. S'il y a une littérature que je déteste, par exemple, puisqu'il y a celle que j'aime, s'il y en a une que je déteste, c'est la littérature qu'on appelle « feel good » aujourd'hui. Bon, voilà, une littérature de bons sentiments, je ne vois pas l'intérêt de lire. Pour moi, un bon livre, c'est un livre qui change ma vie. Et j'ai eu la chance, effectivement, de lire beaucoup, beaucoup d'auteurs qui m'ont aidé à me construire. Hein.
Oui, d'ailleurs, et à un moment donné, tu dis, au lycée, deviens acteur de ta vie. Et ça résume bien ta façon de voir la littérature, à savoir que tu écris avant tout pour avancer, quoi. Et en même temps, tu nous traduis une époque. Et ça, j'ai remarqué que ça revient très souvent. De même que tu dis, à 16 ans, j'avais les moyens de sortir de l'ombre. Ben, j'ai trouvé... Comment tu vois cette sortie de l'ombre? Alors, à travers l'écriture, de nouveau.
Ah, ok. Mais je crois savoir à quoi tu fais référence. Mais on va en parler après une pause musicale,
oui,
si tu veux bien.
T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente, ne pas te voir j'en crève, mais je te sens dans mon ventre. Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis. Au moins toute une semaine, ça sera dur, mais tant pis. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien, tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin. Et je connais pas ta mère, je la cherche en vain. Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, dans un coin de ma tête, y a déjà ton trousseau. Un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu laveras pas les pognes avant de venir à table. Et tu me traiteras d'ivrogne quand je piquerai ton cartable. Je t'apprendrai mes chansons, tu les trouveras débiles. T'auras peut-être bien raison, mais je serai vexé quand même. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, allez viens mon Pierrot, tu seras le chef de ma bande. Je t'enfilerai mon couteau, je t'apprendrai la truande. Allez viens mon copain, je t'ai trouvé une maman. Tous les trois ça sera bien, allez viens, je t'attends. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot,
reprend le fil de l'émission Un livre, un auteur. Je suis cuisiné aujourd'hui par Nicole Echenlore. Et donc, on reprend.
Très mauvaise cuisinière.
Sur la question. Oh, non, très très bonne cuisinière. Très très bien. Oui, donc, Nicole me faisait référence donc à un passage d'un livre qu'elle cite en disant à 16 ans, j'avais les moyens
Sortir de l'ombre.
De sortir de l'ombre. En fait, ce que je fais dire dans la bouche de mon personnage, Franck Lombard, c'est que quand on est adolescent, et ça se passe pour beaucoup d'adolescents, eh bien, il y a une sorte de volonté de se différencier de l'adulte et puis aussi prendre la distance par rapport au modèle éducationnel dont on a été l'objet. Et donc, Franck Lombard, lui, il est adolescent dans la deuxième moitié des années 1970. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, en fait, il va mettre un blouson noir, il va se mettre des bottes, des Santiago, des Mexicaines. Il va avoir les cheveux longs, il va avoir un foulard autour du cou. Et puis, il va jouer un peu le frimeur. En fait, il change de peau. Il change d'habit et en fait, voilà, son idée, c'est un petit peu, c'est l'habit qui fait le moine. Donc, je change d'habit, je change aux yeux du monde. Et évidemment, la réalité est bien plus complexe. En fait, il ne va pas changer pour lui-même, il va changer pour les autres. C'est-à-dire que les autres vont le voir différemment. Mais lui, au fond de lui-même, il reste ce qu'il est. N'empêche que ce décalage, ça va lui permettre quand même d'être dans des modalités expérientielles qu'il n'aurait pas pu avoir autrement. Donc en fait, il va vivre des expériences de vie, il va rencontrer des gens qu'il n'aurait pas rencontrés s'il n'avait pas changé de peau. Donc il va avoir une...
C'est la mue.
C'est la mue.
Serpent.
Exactement. Donc ce que je cherche aussi à témoigner là, c'est d'une réalité humaine, c'est-à-dire que les adolescents sont un petit peu... nous questionnent toujours parce qu'ils ont des façons de se présenter qui peuvent être troublantes, inquiétantes, etc. Et donc, je cherche à témoigner donc, dans une sorte de retranscription du dedans, c'est-à-dire que je fais parler mon personnage et je lui fais dire ce qu'il en est de ses états d'âme. Et pourquoi, en fait, il fait ce qu'il fait.
Je voulais te demander à ce propos, comment un jeune de 16 ans comme ça peut tout d'un coup prendre conscience de sa valeur et l'affirmation de lui, car c'est ce qui ressort dans le livre. Quand tu dis « j'avais les moyens de sortir de l'ombre », on a l'impression que tout d'un coup il se dit « mais après tout, je ne suis pas le nul que je pourrais être ». Et voilà, affirmation d'une tout en, j'avais l'impression que tout autour de lui tendait à l'écraser, à t'écraser, enfin à Franck, à écraser Franck plus exactement, et que ce Franck a beaucoup de force pour réagir. Alors qu'il paraît, il raconte qu'il est complexé par rapport aux filles, qu'il est mal habillé, qu'il a une vieille mobilette, que ceci, que cela. Et néanmoins, on sent qu'il a une grande force intérieure. Et comment elle lui est venue ?
En fait, ce que je cherche à témoigner là, au travers de ce personnage, oui, dont beaucoup d'éléments viennent de ma propre vie.
Hein, oui.
C'est, donc j'ai convoqué, comme tout à l'heure je disais, des éléments de mon propre parcours. Ce que je cherche à témoigner, c'est que pour nous tous, dans nos vies, on a les moyens de se dire, ok, j'ai un certain nombre de difficultés, mais j'ai aussi des potentiels. Et maintenant, stop, ça suffit, je cesse de regarder le négatif en moi, je vois le positif et je vais construire ma vie à partir de ce positif. Quels sont les potentiels qui sont en moi et comment je vais les majorer ? C'est ça en fait que je cherche à dire. Et donc je fais dire des choses à mon personnage, et mon personnage va passer par des hauts et des bas, c'est-à-dire que si on veut améliorer son existence, sa vie, on va pas forcément vivre pour autant que des choses positives. Mais le fait d'avoir une option tendancielle et de se dire, voilà, je veux m'améliorer et je veux améliorer les choses autour de moi en faisant aussi en sorte que les autres aillent mieux autour de moi. Parce que c'est impossible d'être heureux dans la vie si on rend pas les autres heureux. C'est impossible de vivre le bonheur si on peut pas en témoigner. Et donc en fait c'est, comme tu disais, c'est une mue, c'est-à-dire qu'en fait tout l'enjeu pour Franck Lombard c'est de changer. Et alors pourquoi je parle de ça à cette époque-là? Parce que je pense que l'adolescence c'est un moment de la vie où tous les possibles sont réalisables, c'est-à-dire même si c'est complètement fantasmatique,
oui.
On a le sentiment à un moment donné, quand on est adolescent, je pense aux alentours de 16-17 ans, on a le sentiment que, finalement, que les déterminismes ça appartient à une autre époque, à l'époque où les parents étaient importants pour soi.
Ah oui, je comprends. On se dit que quelque part, on peut améliorer notre état par nous-mêmes sans tenir compte de ce qui nous a façonné.
C'est ça. Parce
qu'on s'affirme, quoi.
C'est ça. Alors, je pense que tous les adolescents ne s'affirment pas. Et je pense qu'il y en a qui sont écrasés par le poids de la famille, des interactions familiales. Et je pense que ce qui est important à l'adolescence, c'est ce que je cherche à témoigner, ce qui est important à l'adolescence, c'est justement d'avoir le sentiment, même si c'est qu'une croyance et une illusion, c'est le sentiment qu'on peut faire comme on le sent, même si c'est en prenant de la distance par rapport à ses parents, par rapport à son milieu, etc. Voilà. Mais bon, c'est aussi fantasmatique parce que à un moment donné, je pense que vers l'âge de 24-25 ans, et j'en parle plus loin dans d'autres ouvrages, en fait, le poids des déterminismes y revient, hein, parce qu'en fait, on est issu d'une famille, d'une ville, d'une classe sociale, et on ne se libère pas des déterminismes comme ça. Mais le fait de penser que ce soit possible, c'est fondateur pour moi.
Justement, je voulais te demander en quoi ce parcours-là, pour un adolescent, il peut aider la jeunesse à s'en sortir. Car je te connais, je sais que tu es très tournée vers les autres, le rejet de la bande, le rôle des profs, et surtout, on le voit dans ton passage du bac où tu as une forte volonté de t'en sortir. Et je me dis, ça doit bien aider quelque part des jeunes.
Alors, bon, moi déjà, d'abord dire que quand j'ai commencé à ces récits, en fait, il y a 11 récits sur l'histoire de Franck Lombard. Ils sont tous indépendants, ils me racontent tous des phases et des époques de la vie.
Oui, mais il y a un fil conducteur.
Il y a un fil conducteur.
Que j'ai bien senti.
Voilà. Et en fait, d'abord, j'ai commencé à écrire parce que j'avais moi-même mon propre fils aîné qui était adolescent.
Ah, voilà. Oui.
Et donc, j'ai bien senti à un moment donné la prise de distance qu'il avait par rapport à moi. Donc, en fait, il était dans des propos, etc., qui m'ont fait me rappeler ma propre adolescence. Et je me suis dit, bon, là, pour pouvoir tenir le lien avec mon fils, et pour pouvoir être promoteur aussi dans cette relation avec lui, eh bien, je me suis dit que la meilleure des choses que j'avais à faire, c'était moi-même d'être dans une réflexivité par rapport à mon adolescence. Et donc, j'ai commencé à écrire sur l'adolescence, dans l'ethnographie d'un parcours adolescent. J'ai commencé à écrire aussi pour pouvoir mieux comprendre finalement mon fils. Donc,
Et effectivement, tu as trouvé du positif dans la relation que vous avez eue ensemble.
Oui. Et puis ça m'a permis aussi d'être attentif et de pas caricaturer mes propos, d'être attentif aussi à ses besoins, même s'il fallait que je joue mon rôle de père et que je réaffirme des limites. Mais néanmoins, ça m'a permis aussi de comprendre que c'était nécessaire pour lui, cette prise de distance. C'est pas évident non plus quand on est un adulte. On a des enfants, les enfants y grandissent, il y a des moments de crise. Comment on fait pour maintenir le lien?
Oh là là.
Et comment on fait pour que ce lien en fait reste vivant, reste actif et que l'autre aussi s'épanouisse dans cette relation. Mmh. Donc en fait, tout l'enjeu pour moi, c'était ça. Et donc je me suis mis à écrire au départ donc sur l'adolescence de Franck Lombard pour pouvoir être en phase avec mon fils et ça a été bénéfique pour moi, je veux dire. Au-delà de l'écriture, ça a
et
été
bénéfique.
Ouais. Je t'en prie.
Justement, c'était la question que je voulais te poser. Est-ce que tu avais utilisé ta propre expérience? Ben, là, tu viens d'y répondre. En fait, c'est par l'éducation de ton fils. Je pensais que c'était par rapport au milieu où tu travaillais. Non, là, tu n'as pas eu d'expérience qui puisse aider.
Bah, disons que moi, ce qui m'a importé de faire, c'est bon. D'abord, en fait, c'était important pour moi, comme je viens de le dire, par rapport à l'adolescence de mon fils aîné. Mais en fait, bien sûr, en écrivant, j'étais animé par le fait de pouvoir aussi dire des choses qui pourraient aider d'autres personnes, voilà, qui sont confrontées à l'éducation d'un enfant, d'un adolescent, etc.
Je voulais te demander à ce sujet, tu as eu du retour de personnes qui ont lu ton livre et qui t'ont dit « ça nous a aidés ».
Ah oui, alors c'est incroyable.
Dis-moi, parce que ça m'intéresse, vu que nous avons parlé à midi de beaucoup de choses, mais pas de cet aspect.
C'est vrai, oui. Bah, j'étais au Salon du Livre à Villeneuve-sur-Lot, au mois de mai, là. Et de mai 2019. Et en fait, je participe à ce salon. Je suis invité dans le salon tous les deux ans, puisqu'il se tient tous les deux ans. Et c'est incroyable parce que je revois souvent des lecteurs qui ont acheté un livre il y a des années, et puis ensuite le suivant, etc. Et donc voilà, je retrouve très souvent donc dans ce salon des lecteurs, des lectrices, et donc à chaque fois ils veulent en savoir plus, et voilà. Alors là, je leur ai dit que c'était la fin des aventures de Franck Lombard. Alors ils me disent ah ouais, ben non,
ils
sont pas déçus, mais enfin bon, oui, c'est un peu c'est la fin d'une série, quoi, hein. Bon, mais en même temps, il faut aussi savoir mettre un point final et puis aller sur autre chose, quoi. Mais oui, c'est moi, j'adore ça, en fait. J'adore à la fois des relations très directes, parfois sur internet aussi. Il y a des gens qui passent par l'éditeur pour me faire des retours.
C'est positif, c'est
ça,
bien.
Ça, c'est génial. Il y a même des auteurs que j'ai publiés et qui ont commencé par lire mes ouvrages et qui m'ont fait des retours et puis après qui m'ont
c'est vraiment
envoyé,
interactif, c'est le plus positif d'écrire. Ouais. Justement, je te demandais ça, mais maintenant tu y as répondu, quoi. Je te demandais l'objectif, si c'était aider les jeunes qui ont galéré et qui galèrent et qui essayent de s'en sortir, mais c'est ce que tu dis, hein, ça dépend des questions qu'on peut te poser, je pense.
Ouais, en fait, bon d'abord, alors les livres que j'ai faits là sur les différentes trilogies sont des livres qui sont assez vivants. C'est-à-dire que j'ai voulu faire des livres d'adolescence, par exemple, en général, ils sont
le
plutôt drôles.
Le vocabulaire aussi,
voilà.
Hein, oui.
Donc il y a un travail sur la forme, c'est des livres qui sont plutôt drôles. L'enfance, je fais parler l'enfant, donc en fait, on est dans un autre type de réalité. Mais bon, en fait, ça reste quand même aussi de la distraction. C'est-à-dire que j'ai pas fait, justement, je voulais sortir de ce que je fais habituellement, donc des livres techniques ou scientifiques. Voilà. Je voulais faire des livres qui soient plus destinés au grand public et qui permettent aussi aux lecteurs de se poser des questions sur ce que c'est que l'enfance, à quoi il faut être attentif, mais répondre à des questions au travers d'une forme qui soit une forme littéraire, quoi.
Oui, je comprends. Hein.
Mais pas forcément pas parce que mais pas forcément pour des gens qui ont des problèmes, c'est-à-dire ce que je veux montrer, ce que je veux vraiment montrer dans ces livres, c'est que la ressource, elle existe en nous, quoi. Et Franck Lombard, ben, en fait, il cherche, il trouve la ressource en lui, et finalement, il arrive à surmonter des épreuves et il arrive à construire sa vie, quoi. C'est ça que je voulais montrer. Ensuite, il y a, voilà, il y arrive pas tout seul. Il y arrive parce qu'il y a aussi des rencontres, hein, comme tu l'as dit. Mmh. Et bon, il y a la littérature pour lui. Il rencontre des professeurs. Il rencontre d'autres jeunes comme lui. Il rencontre l'amour. Il rencontre l'amitié. Donc tout ça, ça va être fondateur. C'est sûr. On s'en sort jamais tout seul. Et en fait, on se construit jamais tout seul. On se construit dans un rapport à l'autre. C'est ce que je cherche aussi à témoigner. Et je pense qu'avec dans le jeu des dialogues, d'ailleurs, je pense qu'on le... On le voit assez bien. Avant que tu continues, je propose qu'on fasse une courte pause musicale.
Oui.
Comme dans chaque émission, je reprends quand même le fil dans l'émission Un livre, un auteur pour la rubrique Les livres du mois. Et tout à l'heure, donc, Nicole Echenlor continuera donc à me cuisiner. Alors, dans le cadre des livres du mois, un livre des éditions Sutton, La Sarthe, insolite et secrète. Un très beau livre, comme toujours, chez Sutton, avec de très belles photos et puis des textes d'un collectif, les guides habitants, les amis de Louis Simon. Voilà, donc ils sont un certain nombre à avoir produit des textes et fait un très très beau livre à l'italienne, La Sarthe, insolite et secrète. Un autre livre des éditions Sutton, Chronique de Laurent Genex, Signe des temps, histoire drôle et drôle d'histoire au coin des rues de Tours. Voilà, donc un très beau livre aussi donc, sur Tours, une ville importante de notre région, avec des photos tout à fait incroyables qui témoignent de Tours et puis de ses environs. Et les chroniques, évidemment, de Laurent Genex. Donc, Signe des temps chez Sutton. Ensuite, un livre de Jacques Exbalin, La guerre au plastique est enfin déclarée. Un livre publié chez L'Harmattan. Alors, Jacques Exbalin fait un petit peu le diagnostic de l'état du monde. Et de ce que le plastique provoque pour nos océans, par exemple, mais aussi pour toutes nos décharges, etc. Donc, c'est assez angoissant. Mais à la fin, il fait également l'état des lieux de toutes les solutions. Et là, comme on disait tout à l'heure, c'est lumineux, parce qu'en fait, ça nous donne vraiment des espoirs, et puis ça nous fait percevoir que finalement, il y a beaucoup de solutions, notamment avec des robots pour aller prendre les déchets de plastique dans les océans, les traiter in situ. Voilà, il y a plein de solutions qui existent. Je rappelle le livre, Jacques Exbalin, La guerre au plastique est enfin déclarée chez L'Harmattan. Un autre livre, sous la direction de Piero De Galloro, Conflictualité, représentation et médiatisation de la violence et de la radicalisation. Donc, un livre, donc, évidemment, sur... la question du risque terroriste et puis la question des représentations également qui prévalent et qui ne sont pas toujours de nature à pouvoir traiter ces problèmes de la radicalité. Donc c'est un collectif d'auteurs qui sont pour la plupart sociologues et qui permettent vraiment de se poser des questions intéressantes conflictualité, représentation et médiatisation de la violence et de la radicalisation, donc dans la collection Logique sociale chez L'Armaton. Et un dernier livre, un roman, parce qu'on ne peut pas lire que des choses sérieuses, un roman d'Edward Abbé, un Américain, le gang de la clé à molette. Est-ce que tu connais, Nicole?
Non, pas du tout.
Le gang de la clé à molette, c'est assez drôle. Bon, voilà, donc c'est un ouvrage qui n'est pas récent, mais qui est ressorti donc chez Totem, voilà, donc chez Gallmeister, collection Totem chez Gallmeister. Donc, Edward Abbé, Le gang de la clé à molette, un ouvrage qui vous fera voyager donc, dans le Middle West. C'est très bien pour les week-ends. Une courte pause musicale et on retrouve Nicole là, tout de suite.
Je voulais poursuivre les questions, si ça ne te dérange pas. Et en particulier, j'ai lu le dernier Une vie à crédit, 3 volumes, et j'ai remarqué que Franck Lombard se situait là par rapport à l'évolution du monde grâce à ses voyages. En particulier, il fait cette réflexion, le monde tournait dans un sens que je n'avais pas envie de voir, et ça me fait penser à une référence d'un livre qui vient de sortir de Javier Cercas, qui, dans Le Monarque des Ombres, c'est un livre qui est sorti il y a 2 ou 3 mois, dit « Je parle de moi pour parler du monde ». Et je sens que l'adulte que Franck Lombard est devenu se situe par rapport d'abord au voyage qu'il fait. Il va en Italie, il va en Grèce, il va dans les ex-pays de l'Est. Et à chaque fois, il se positionne par rapport à la civilisation de ses peuples, à l'Antiquité, l'importance de l'Italie. Enfin, c'est intéressant parce que on est dans une autre perspective. Enfin, dans le dernier ouvrage, j'ai remarqué qu'il la mondialisation, le terrorisme, les récents conflits laissent présager un éclatement du monde et des problèmes qui sont d'une autre échelle que son petit nombril, quoi. Voilà ce que je voulais te demander.
Bah oui, en fait, alors tout à l'heure tu parlais de Montaigne et j'étais sensible à ça, c'est-à-dire que effectivement, je pense que pour qu'une littérature soit accessible, hein, entre guillemets, il faut qu'elle soit incarnée.
C'est vrai.
Donc on doit bien parler d'un point fixe et le point fixe que je connais le mieux, c'est celui à partir duquel je me tiens debout. Donc en fait, ce que je connais le mieux du monde, c'est moi. Et évidemment, j'ai convoqué un certain nombre de catégories de pensée pour pouvoir ensuite communiquer avec le lecteur à partir donc de l'exploration du monde. Alors, c'était important pour moi de parler de l'Europe, comme tu viens de le dire. Pourquoi ? Parce que on vit en Europe. Il y a eu des élections européennes il n'y a pas très longtemps. On voit que ça n'attire pas forcément les foules. Pourtant, depuis 70 ans, on vit en paix, même si l'état du monde n'est pas reluisant. Malgré tout, on vit en paix en Europe. L'Europe, c'est quand même ce qui a fabriqué notre culture. Hein. Oui, la Grèce, évidemment, la Grèce antique, Rome, etc. Et donc, partout où on va en Europe, on sent le poids de cette culture, y compris jusqu'en Turquie, puisque je parle également de la Turquie. Thalès de Milet, Milet, c'est sur la côte occidentale turque. Je voulais aussi parler aux lecteurs de cette Europe et montrer aussi que finalement, en agitant comme ça mon personnage Franck Lombard, mais pas lui uniquement, aussi d'autres personnages sur la scène européenne, c'était aussi donner une autre tonalité par rapport aux trilogies précédentes. Hein. La trilogie du jeu de vivre, c'est un enfant, donc l'enfant il évolue dans la triade avec des parents, etc. Donc en fait, le monde est assez clos. Mais quand on devient adulte, comme c'est le cas dans la dernière trilogie, Une vie à crédit, on devient adulte, donc en fait on découvre le monde et on prend sa place dans le monde. Mais le monde, c'est pas simplement à l'échelle de la ville, c'est à l'échelle du continent, au moins du continent. C'est ce que j'ai voulu traduire et j'ai voulu aussi témoigner de ce qu'était l'état du monde à l'époque où j'en parle. Donc j'en parle aux alentours des années 1990 et donc en fait je suggère déjà en fait ce qui est en prémisse, à savoir la guerre en ex-Yougoslavie qui va conduire au massacre que l'on connaît. Je parle également de la première guerre du Golfe, parce que moi j'étais en Turquie, donc sur la frontière irako-syrienne en 1990, et je montre en fait que les questions de rapport comme ça extrêmement dangereux entre l'Orient, l'Occident, en tout cas entre l'Occident et le Moyen-Orient, bah c'était déjà dans une tension très forte. Et je montre aussi que les tensions entre les religions sont en train de monter. Et en fait, ce que je veux dire au lecteur, c'est que l'histoire d'aujourd'hui, elle ne peut pas être comprise si on n'a pas non plus un éclaircissement sur ce que c'était que cette époque dans les années 80-90, où en fait on aurait pu faire autrement, mais on ne l'a pas fait. Et donc aujourd'hui, si on veut trouver des réponses donc aux difficultés qu'on rencontre, ça supposerait déjà qu'on soit en mesure de comprendre les chaînes de causalité. Voilà. Et les chaînes de causalité, pour les comprendre, il faut se reporter aussi à l'histoire.
Oui, c'est intéressant parce qu'il y a une chronologie et il y a une référence à nos cultures et au choc qu'elles subissent maintenant. Il y a pas au choc des. Je voulais aussi te dire ce que j'ai trouvé intéressant. À un moment donné, tu dis, le parcours de Franck Lombard s'inscrit à la lisière de l'intime et de la société. Ça résume ton œuvre finalement. C'est pas un individu qui se raconte, mais il se raconte à travers un milieu social, une société et le monde. Qui nous entoure, quoi. Il y a une grande ouverture, finalement. À travers ce que je t'ai déjà dit, ces trois axes dont je trouve qu'ils sont le leitmotiv permanent, l'écriture, la volonté d'écrire, et puis le goût d'une gaieté, quoi. Le vin, qui est toujours associé à des événements joyeux, puis on sent le collectionneur, et puis le karaté, qui est un autre aspect de ton existence et qui est le plus important à côté de l'écriture. Et puis, bien sûr, la vie conjugale apaisante. Enfin, en gros, c'est ce qui me frappe, quoi. C'est ainsi que j'ai vu ton écriture, tes livres. L'ensemble de ton œuvre, pour employer le vocabulaire qui convient. Et voilà.
Bon, écoute, je te remercie. Donc, je crois qu'on arrive au terme de l'émission. Et en tout cas, merci à toi, Nicole. J'ai joué le jeu, je suis passé de l'autre côté. On a inversé les places. Je mesure à quel point tu as voulu jouer cet exercice de manière très... très professionnel, tu as plein de fiches devant toi et tu as vraiment fait un travail incroyable, je t'en remercie. Et puis,
c'était un plaisir de lire aussi ces récits, parce que j'avais pas tout lu, maintenant j'ai bien saisi le sens. Voilà.
Et merci à toi d'avoir fait ce grand voyage pour venir nous parler du caméléon Afrique lors de la dernière émission.
C'est peut-être remboursé par l'Harmattan.
Merci à toi et à bientôt à tous les auditeurs. Et merci aussi à Simon Martin, à la technique.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un cygne. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle, quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin